À voix nue. Martin Kenéen s'entretient avec Jacques-Alain Miller. Aujourd'hui, cinquième et dernier volet, rue Huysmans. La mort de Jacques Lacan en 1981 marque une étape majeure dans votre vie, Jacques-Alain Miller, puisque vous devenez vous-même analyste à ce moment-là. C'est aussi en 1981 que vous créez l'ECF, l'École de la cause freudienne, dont le siège est situé 1 rue Huysmans, dans le 6e arrondissement de Paris. Les 20 ans de la disparition de Jacques Lacan en 2001 scandent aussi votre retour sur le ring de la scène intellectuelle française avec vos lettres à l'opinion éclairée. S'en suivront des œuvres, des actions de combat qui ont fait et font encore frémir et trembler vos contemporains, comme par exemple en 2003, la satire intitulée « Le neveu de Lacan » et la série des « Forums des psys » qui ont fait reculer le gouvernement français, qui entendait alors réglementer, d'aucuns ont dit assassiner la psychanalyse.
Oh là là, oui, reculer le gouvernement français, faut pas exagérer. Le gouvernement, il y a plusieurs...
Ça a poussé le ministre de la Santé de l'époque à déclarer, sinon sa flamme, du moins son attachement à la psychanalyse et à sa liberté.
Absolument. Monsieur Accoyer, qui était député, qui est maintenant président de l'Assemblée nationale, avait à cœur de réglementer la profession des psychothérapeutes en raison de ce qui avait sans doute été le mauvais traitement de sa sœur qui était atteinte d'une grave maladie, je crois, et qui s'en est remise à un gourou. Bon. Et donc il a considéré, je crois, comme un devoir à l'égard de sa mémoire de réglementer cette profession. En manquant d'informations, en effet, il a fait passer un amendement, l'amendement Accoyer, mais qui touchait latéralement, ce n'était pas son intention, les psychanalystes. Et en effet, là, comme un diable, je suis sorti de ma boîte et j'ai réussi à créer une sorte de mouvement d'opinion qui l'a amené lui-même, au bout de 3 semaines ou 4 ou 1 mois, de dire lui-même qu'il reconnaissait qu'il fallait réécrire son amendement. Et puis voilà, je n'ai pas fait reculer le gouvernement français, le moins du monde. Et au contraire, ça m'a valu après le soutien des ministres de la Santé que j'ai connus, les uns après les autres. Quand M. Douce de Blasi est devenu ministre de la Santé, il a pris soin de m'appeler quasiment le jour même ou le lendemain et de me dire son intérêt pour la psychanalyse. Il m'a même dit dans son affabilité qu'il était prêt à venir me voir. Je lui ai dit, monsieur le ministre, si vous m'invitez, je me rendrai auprès de vous. Et il est venu à un des forums que nous avons fait, où parlait Bernard-Henri Lévy. J'ai eu les meilleurs rapports avec les représentants du gouvernement français. Je ne les ai pas fait reculer, je les ai fait avancer jusqu'au forum des psys. Voilà. Voilà comment il faut dire la chose.
Mais alors, si on revient à 1981, oui. Cette année où... disparaît Jacques Lacan et où vous devenez analyste quelques semaines après
oui,
la mort de Jacques Lacan.
Je vous ai dit que
comment vous êtes-vous décidé?
Je n'étais pas décidé à être analyste. C'est quand j'ai vu tout ce monde, toute cette meute qui hurlait à la mort après moi à travers ces échanges d'innombrables lettres dans Paris, dans le milieu analytique, et puis il y a des choses qui paraissaient dans les journaux, etc. Si vous voulez, pour moi, ça s'est cristallisé. C'était... à l'époque, il y a quelqu'un qui a dit, qui avait été l'analyste de mon frère, qui a dit « Dans 15 jours, Jacques-Alain Miller aura disparu de la psychanalyse. » Et je lui ai dit « Banco, j'y suis, j'y reste. » Et donc ça m'a... j'avais tous les éléments, je m'étais mis à la clinique, je suivais les présentations de malades, j'étudiais, mais je n'avais jamais reçu un patient et je n'avais jamais tendu la main pour recevoir le paiement d'une séance, ce qui me paraissait déjà une chose incroyable. Moi j'étais professeur, enfin enseignant, j'étais habitué à toucher mon argent de façon invisible de l'État pour un service rendu à la communauté, à l'humanité, à la planète. Et recevoir de l'argent pour un service rendu à une personne, et on vous met l'argent ou un chèque dans la main, ou sur le bureau, ça me paraît... Je ne savais pas ce que c'était. Je n'étais pas psychologue, donc je n'avais pas... J'ai senti le passage. Et donc je me suis décidé, et aussi il y a quelqu'un qui m'a décidé, c'est-à-dire qu'il y avait une jeune femme blonde qui voulait absolument faire son analyse avec moi. C'est là que j'ai appris. Et si vous voulez, la question pour moi, c'était d'une part, j'étais donc honni par la majorité des anciens élèves de Lacan, que j'avais essayé de rallier. Au contraire, je ne voulais pas du tout m'opposer à eux, mais bon, pour eux, j'étais rien du tout dans la psychanalyse. Pourquoi pas? J'avais jamais reçu un patient, et moi-même, je ne savais pas ce que j'allais donner comme analyste. Et que je devais faire ça en sachant qu'il y avait un grand public prêt à saisir le moindre faux pas que je ferais. Hein. Donc, je n'étais pas porté à faire le mariole sur la scène publique, j'avais à apprendre mon métier, à voir qu'est-ce que je donnais comme analyse dans la pratique, j'avais mon cours à faire, et alors l'école de Lacan freudienne, c'est quoi? Lacan a décidé de dissoudre l'école freudienne, il fallait encore que ce soit voté, ça a été un combat épique qui a duré pendant 9 mois avec tutelle judiciaire, enfin on a tout vu et on a gagné finalement. Et j'ai porté la nouvelle moi-même à Lacan en allant de la maison de la chimie où il y avait une réunion à où il y avait eu le congrès, l'assemblée qui devait voter, à bulletin secret ou avec huissier, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc j'étais resté là pour savoir le résultat. Lacan était déjà parti à la réception qui était prévue à la maison d'Amérique latine. Et à peine les comptes ont été faits, ils m'ont été communiqués par maître Zécri. Il s'appelait Zécri, ce qui était drôle, l'huissier de justice. Et donc il m'a donné les chiffres, je les ai pris et j'ai couru, j'ai volé de la maison de la chimie jusqu'à la maison d'Amérique latine pour en informer Lacan. Après, ça a fait patatras, c'est-à-dire qu'il y a eu un projet d'école, et ça a été dénoncé par mon ancien analyste, comme quoi Lacan n'avait plus sa tête, comme quoi c'était moi qui faisais les choses, comme quoi c'est déjà déposé à la préfecture de police. Bon, tout le monde a pu voir qu'il n'y avait rien de déposé, mais alors ça devient encore pire, parce que non seulement ça devait être déposé, mais ça ne l'était pas, enfin, des folies complètes, et il avait d'ailleurs... Ce type, il avait mis une citation de Shakespeare, parce qu'il faisait le cultivé, comme ça il faisait le médecin cultivé, ce qui n'était pas vraiment, qui était « Voilà cet homme qui a été, ce roi qui a été si brillant, et maintenant deux pas de la plus vile terre suffisent à... » Donc il tuait déjà Lacan. Enfin, ça dépasse l'imagination, hein. C'est la haine nue, abjecte de ces personnes, qui m'a décidé, je me suis dit, voilà où roule la psychanalyse, voilà où roule l'enseignement de Lacan, je ne peux pas laisser ça dans les mains de ces salauds-là, et je me suis décidé à ramasser le drapeau dans la fange et à le redresser. Alors, tout le monde voulait quand même, il y avait quand même autour de Lacan des gens qui étaient restés jusqu'au bout, il y avait des gens que je formais au département de psychanalyse, déjà, tout ça a donné finalement 200 personnes. Et donc, pour ces 200 personnes, il y a Lacan, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse une maison, et bien faites les statues, faites bon. Et alors, il me tannait pour que je fasse les statues, et comme on habitait ensemble rue d'Assas, il venait voir le soir, c'est fini maintenant. Non, monsieur, c'est très difficile à faire. Bon, alors, ça sera prêt quand Et alors, ce qui est drôle, c'est que je me suis tué sur ces statues un soir, et je me suis endormi sur le divan qui était un lit de travail, enfin qui était dans mon bureau, un lit de camp en quelque sorte. Et je me suis endormi là et je me suis réveillé le matin et crac, j'ai eu mon premier lumbago. Et j'ai pensé à ce moment-là, je suis comme aîné portant son vieux père en chise. Tableau ancien dont j'ai une reproduction. Je sentais que j'avais Lacan sur le dos, en quelque sorte, et je l'avais physiquement, et ça m'a fait mon premier lumbago, et ça a duré, j'ai eu des lumbagos à répétition à cette époque, jusqu'à ce que, d'une part, je comprenne bien le symptôme, et d'autre part, quand même, j'ai eu une bonne kinésithérapeute qui m'a fait faire la gymnastique, qui m'a évité que ça se reproduise.
Jacques-Alain Miller, vous avez déclaré, et j'ai pu créer le champ freudien, c'est-à-dire... un vaste réseau constitué d'écoles.
Le champ freudien, c'est le nom de la collection que Lacan avait donnée au Seuil, mais on l'a pris comme symbole. Lui-même avait dit que le département de psychanalyse de Paris 8 devrait s'appeler le département du champ freudien, et finalement, c'est devenu le nom de tout le réseau d'écoles et
de sections cliniques,
etc. C'est le nom le plus large, le nom générique. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on a créé une fondation du champ freudien. Lacan a accepté d'en être président. Judith, ma femme, sa fille, on a été vice-présidente, et à sa mort, à la mort de Lacan, elle est devenue la présidente de la fondation, qui n'est pas une fondation de droit, c'est une association de 1901, donc légalement c'est l'association de la fondation du champ freudien. Et ça existe toujours, et ça sert de parapluie à toutes ces institutions qui sont indépendantes. Vous pensez bien que c'est ça aussi... contrôler, s'il fallait que je contrôle tout ça, il me faudrait un building un peu comme monsieur de Lamartinière. je contrôle rien, j'ai rien, j'ai pas une archive chez moi, j'ai rien, c'est les gens. C'est, tout ça est indépendant, mais relié, ils sont tous autonomes, toutes les écoles sont autonomes, elles ont leurs assemblées et tout, je n'y suis rien, mais si j'ai besoin d'un renseignement et tout, bah c'est chez eux. D'ailleurs, j'ai pas besoin de renseignement.
Et vous dites bien que vous êtes mêlé de la création de ces institutions.
Alors, je me suis beaucoup
non
mêlé.
Pas par goût du pouvoir, mais pour le goût de créer des institutions.
Bah oui,
mais j'ai une déclaration que j'ai pu créer le champ freudien, avez-vous dit, parce que je n'ai été ni Brutus, ni Robespierre.
Oui.
Mais est-ce à dire que vous avez été un peu des deux?
Pour moi, Brutus, Robespierre, c'est les hommes du 2 et 2 égale 4, pour Brutus, quand il explique pourquoi il a tué César. Pour Robespierre, c'est le club des Jacobins, c'est-à-dire quand même l'uniformisation. Moi, pas du tout. J'ai appris que chaque école, ça doit être celle du pays, qu'il faut connaître les mœurs locales, il faut laisser beaucoup de marge à ça.
Parce qu'il faut expliquer que au sein de l'Association mondiale de psychanalyse que vous avez...
Celle-là, je l'ai fondée, c'est-à-dire... Il y avait l'école donc, de la cause freudienne, que je n'ai pas fondée, qui s'est imposée, dont la nécessité s'est imposée, dont j'ai fait les statuts, et Lacan a dit « je l'adopte » ou « je l'ai adopté », il a dit quelque chose comme ça. Et ces statuts ne font pas de moi, le fait d'avoir rédigé ces statuts qui ont été votés ensuite, ne fait pas de moi le fondateur de cette école, je n'étais pas dans cette position-là du tout, ça répondait au désir de ceux qui étaient restés avec Lacan jusqu'au bout, fidèles et pas... Deuxièmement, il y avait au Venezuela, à Caracas, un groupe qui s'était formé autour d'une psychanalyste prénommée Diana, que j'avais visité, c'était le premier voyage que j'avais fait, et ça avait décidé Lacan à y aller, il est allé en Concorde, la dernière année de sa vie, c'est là qu'il a fait son dernier séminaire. Et donc là, ils ont voulu se former en école et j'ai été d'accord. Donc il y a eu l'école du champ freudien. Ensuite, il y avait un problème. Il y avait les tout du monde en Espagne, en Italie. C'était assez difficile de voir comment résoudre le problème parce que d'abord en Espagne, ils n'étaient pas amoureux du signifiant espagnol. En particulier les Catalans, ils n'avaient aucune envie qu'il y ait une école espagnole. En Espagne, il y avait 20 groupes différents qui se querellaient. En Italie, il y avait une certaine influence des anciens élèves de Verdiglione. Donc des tas de problèmes. Mais j'ai résolu ça en fondant l'École européenne de psychanalyse. Le coup de génie, enfin le coup tactique qui a été réussi, c'est que j'ai convoqué les gens à Barcelone sans leur dire pourquoi. Et j'ai annoncé que je créais l'École européenne du champ freudien, qui couvrait donc aussi bien l'Espagne par région, donc les Catalans n'avaient pas à subir le joug madrilène, et les Italiens, dans le désordre de ça, pouvaient s'y retrouver aussi, et ça a été comme une traînée de poudre, c'est-à-dire même des gens qui ne voulaient pas avant, tout le monde a voulu en Espagne, les 20 groupes m'ont supplié d'accepter leur dissolution pour entrer dans cette école, et je me suis retrouvé avec le problème, comment organiser ça? Mais enfin, c'était abondance de bien. Ça, c'était 1990, si je ne me trompe pas. C'était ma première... mais je connaissais très... J'avais voyagé en Espagne à partir d'un certain moment, j'avais voyagé en Italie, et je connaissais tout ça à l'époque par le menu. Bon, évidemment, les gens pensaient que ça allait durer toujours et que mon rêve était de gouverner. Mais mon rêve n'est absolument pas de gouverner, c'était de résoudre le problème de créer l'institution qui prospère. Et après, de cette institution, on a pu créer, les Espagnols ont fini par vouloir une école espagnole qui a existé, puis on a pu créer une école italienne, et il est resté ce qu'on appelle, ce à quoi, en quittant la présidence de l'AMP, j'ai créé sous le nom de New Lacanian School, où il y a des Anglais, où il y a des Flamands, où il y a tous les endroits d'Europe qui ne sont pas assez nombreux, assez consistants pour faire des écoles. Donc on couvre l'Europe entière. grâce à ça, ils sont rattachés des cercles de l'Est, de Russie, de Pologne, de Lituanie, etc. Bon. Mais, et alors, j'ai réussi aussi. Alors, à partir de là, les Argentins se sont sentis morveux parce qu'il y avait plein d'analystes, mais ils ne s'entendaient pas. Ils se disaient, en aparté, chacun me disait pique-pente du groupe de l'autre, etc. Donc, il fallait résoudre ça. Mais quand ils ont vu que les Européens avaient une école, ils avaient envie d'en avoir une. Cette année-là, 92, j'ai voyagé 5 fois en Argentine. Je prenais le Boeing comme le métro. Et j'exerçais une telle pression sur eux en faisant des réunions, tout ça, qu'à la fin, je crois qu'ils ont accepté de créer l'école pour se débarrasser de moi, que je reste en France. Et donc, ça a été l'EOL, Escuela de la Orientación Lacaniana, avec des gens, bon, il y avait certains qui étaient restés pendant la dictature, d'autres étaient partis au Venezuela, d'autres avaient été torturés, d'autres ne l'avaient pas été, etc. Bon, tout le monde a été là. Et je me rappelle que ça s'est créé peu de temps après, quelques jours après la dissolution de l'Union soviétique. Je me rappelle parce que j'attendais le taxi pour aller dans le plus grand groupe qui ne voulait pas se dissoudre. Et j'avais commencé en leur disant, vous savez que hier, l'Union soviétique a été dissoute, et c'est plus facile de dissoudre l'Union soviétique que votre symposio, etc. Bon, tout le monde a rigolé, et voilà. Et donc c'était très bon souvenir. Et je me souviens, à un moment, j'ai commencé à penser qu'il y avait l'Association internationale de boxe et l'Association mondiale de boxe. Et je me suis dit, le moment est venu de créer, de faire un saut, parce que l'école brésilienne, ça va être difficile à créer, de créer tout de suite l'Association mondiale. Et que comme il y a l'Association internationale, celle qu'avait créée Freud et qui avait vidé Lacan, moi, je peux créer l'Association mondiale, la World Association, comme il y a la World Association of Boxing. Et j'en ai ri, moi-même, ça m'a paru comme un vitz, comme une blague. Donc j'ai réveillé Judith, et je lui ai dit, je viens d'avoir cette idée. Et au fond, je n'en ai parlé qu'à elle, là. Et quand je me suis levé à la tribune pour la création de l'EOL, donc j'ai parlé de ça, et je me dis, est-ce que je largue cette histoire d'association mondiale? Est-ce que ça va faire un flop ou non? Et puis, je n'ai pas résisté. Et j'ai vraiment le souvenir, c'était comme de plonger de très haut d'un tremplin, et j'ai lâché ça. Et ça a été la stupéfaction, et ça a marché, ça a pris ce signifiant, et ça m'a permis de créer l'école au Brésil, où il y avait aussi, là, il y a des oppositions régionales considérables à l'époque. Et j'ai pu, alors là, ils ont senti la pression, puisque les Européens avaient leur école, les Argentins, il y avait l'Association mondiale, et eux, les Brésiliens, ce pays si fort, si grand, si plein d'avenir, et ils n'avaient rien à voir. Et donc, ils ont désiré cette école, j'ai pu créer l'école brésilienne, et il restait les petits pays d'Amérique latine, enfin, les petits pays, ceux où on était moins représentés, et pour eux, j'ai créé, plus tard, 2 ans après, la NEL, la Nueva Escuela Lacaniana, ou qui est représenté à Cuba, comme en Amérique centrale, comme en Colombie, comme en Équateur, au Guatemala maintenant, il reste le Belize encore à conquérir. Évidemment, j'étais un peu moins dans mon cabinet à établir les trucs, bon, mais je pensais que l'avenir de Lacan, ça passait aussi par cet effort-là, voilà.
Donc vous avez à la fois
continuais toujours.
Créé des institutions, vous avez continué toujours d'établir ces séminaires, d'être donc ce menuisier littéraire de Lacan, selon votre expression, et puis paraissent en 2001 vos lettres à l'opinion éclairée, 2 ans plus tard le neveu de Lacan, qui signe votre retour sur la scène intellectuelle française, sous la forme de, dites-vous à ce moment-là, Zarathoustras, le prophète du siècle qui commence. Alors est-ce que ce Zarathoustras... Est-ce que ce Zarathoustras, donc un peu bling-bling, comme on dit aujourd'hui, est l'autre visage de l'Héphaïstos, le forgeron boiteux, fabricant d'objets magiques, que vous avez longtemps incarné?
Oui, écoutez, les lettres à l'opinion éclairée, donc c'est né, effectivement, il y a 10 ans, au moment du 20e anniversaire de la mort de Lacan. Pourquoi? C'est que, bon, c'est pendant ces 10 années, au fond, ça a été très présent pour moi de construire quelque chose qui fasse pièce à l'international. Et l'association mondiale, c'est 10% de l'association internationale. Le plus drôle, c'est que le président de cette association internationale, dans les dernières années de la décennie 90, c'était un ami à moi, plus âgé, qui s'appelle toujours Horacio Etchegoyen, et qui avait justement voulu que j'aille enseigner Lacan dans son groupe de Buenos Aires, la première fois que j'étais venu à Buenos Aires, juste après la mort de Lacan. Et c'est là, d'ailleurs, que j'avais pris une décision importante. Il était absolument charmant, très british d'aspect, parce qu'ils étaient tous kleiniens, donc ils allaient tous se former à Londres, et ils revenaient avec des cachemires, des tweeds, des moustaches exactement britanniques. Bon. Donc, il était absolument charmant. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que je vais enseigner Lacan chez les gens de l'IPA, quand même, qui sont bien sûr délicieux, mais... ou est-ce que je vais faire quelque chose d'autonome? Et c'est là, en réponse à sa demande, que je me suis décidé à inventer le champ freudien comme espace autonome distinct de l'IPA où on enseignerait Lacan, chez Lacan, en quelque sorte.
Et alors, si on revient à vos lettres à l'opinion éclairée, alors, qui sont encore
Alors, cet Horatio, il est devenu président de l'IPA, parce qu'il avait obtenu, les Argentins ont obtenu que ce ne soit pas toujours les Américains qui dirigent ça ou les Européens, mais que les Latinos, eux aussi, aient leur place. Au point que je me suis rendu pour la première fois à un congrès de l'International à Barcelone, en 98, en compagnie de mon ami Georges Forbes, brésilien, et que on a été, moi, quand j'ai parlé dans la grande salle pour commenter l'exposé clinique d'Horacio Etchegoyen, j'ai été applaudi, et après les gens sont venus me dire « Oh, mais c'est très intéressant, où est-ce que vous êtes formé, de quelle école ?» Et, évidemment, je n'étais pas d'une école, donc j'ai éludé.
Vous étiez le loup dans la bergerie
d'IPA ? Non, pas du tout, je n'étais pas un loup, j'étais un mouton comme les autres, mais je les avais frappés par une analyse clinique du genre qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre. Et Horatio, c'est vrai qu'on a eu des dialogues qui ont été publiés. Bon, ça n'allait pas vers qu'on va revenir dans le sein de l'international, mais qu'on va établir des rapports décents, courtois, comme il existe en Argentine, où les gens se fréquentent. Alors qu'en France, bon. Et ça a été rendu impossible. Alors, pourquoi je me suis mis en colère pour les lettres à l'opinion éclairée? C'est que de ce congrès, qui était un excellent souvenir pour Forbes et pour moi, de notre séjour de Barcelone, il y a eu un compte-rendu absolument dégueulasse disant qu'on n'avait rien à y faire ou qu'on avait été ridiculisé, enfin je sais pas. Ça m'a indigné, j'ai demandé la publication d'un rectificatif d'ailleurs très poli pour que ça ne reste pas. Et ils m'ont refusé le rectificatif, ce que j'aurais pu aller en justice. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Et là j'ai été furieux. J'ai imprimé un carton, comme on aurait un carton de duel que je suis allé imprimer là, chez rue du Faubourg-Saint-Honoré, le meilleur, et je l'ai balancé avec un certain nombre de journalistes et tout. Ça a d'ailleurs tout de suite intéressé Pierre Assouline qui m'a invité. J'ai fait une scène à son micro en disant qu'est-ce que c'est que ces gougnafiers, enfin, qui ne veulent pas publier mon rectificatif, et je me suis lancé dans une mise en cause des deux gaillards qui, le directeur de publication et celui qui avait rédigé l'article, qui me refusaient un droit que me donne la législation française. Et donc j'ai fait un truc très en colère, et j'étais très en colère. J'ai quand même pris la précaution d'aller voir mon avocat la veille en lui disant « Est-ce que je vais être poursuivi pour diffamation si j'écris ça ?» Je me rappelle de la réponse de Christian, mon avocat, qui était « Oh mais c'est pas grave, nous plaiderons, nous plaiderons. » Bon, je me suis dit « Très bien, on plaidera s'il faut, on n'a pas attaqué. » Et c'était un peu ma déception qu'on n'aurait pas, à cause de cette société de Paris qui bloquait le processus, on aurait pu avoir un rapprochement et non pas réintégrer l'international, mais avoir des rapports courtois, et qu'il était bien entendu que jamais on ne pardonnerait à Lacan ce qu'il avait fait en France, et donc les Français disaient non, c'est ça que ça signifiait. Donc j'ai dit ma douleur, j'ai crié ma douleur, et puis maintenant je n'y pense plus, pour moi, ils ont disparu de l'horizon, grand bien, enfin, d'autant que ma belle-mère était membre de la femme de mon père, et ma mère étant morte... j'étais plus jeune, était membre de cette association, elle est décédée maintenant, il n'y a vraiment rien, avec elle j'avais encore des nouvelles de temps en temps de ses copains, maintenant rien ne m'attache à eux, et je n'ai aucune animosité à leur égard et aucun intérêt.
Pour terminer, Jacques Anamiller, vous évoquiez le discours analytique, c'est un discours où Eros est aux commandes.
Ah oui, oui, oui. C'est un discours, en effet, où on restitue la part qui est gommée, aussi bien dans les mathématiques que physique ou la politique, etc. C'est que chacun, ça repose quand même sur ce que Lacan appelait des parle-être, des gens qui n'ont d'être que par la parole, que dans tous les cas... un par-lettre est fixé à un certain moment de jouissance, la jouissance est contingente, c'est pas prévisible, qui est au principe de son existence, de son discours. Il est fixé à certains signifiants qu'il a rencontrés, à certaines paroles qui lui sont venues de l'autre et qui l'ont orienté. C'est ça qu'on reconstitue dans une analyse. On reconstitue ce déterminisme-là sur des éléments qu'éventuellement les gens connaissent, mais dont ils se rendent compte brusquement du poids que ça a eu dans leur vie. De la façon dont j'ai été cloué au signifiant juif par mon père, sans aucun accompagnement, sans garniture, si je puis dire. C'était vraiment... il m'a cloué, mais il n'a rien ajouté. Ou l'importance qu'a eu pour moi, en effet, vous vous rappeliez l'autre fois qu'il était radiologue, mais oui, et je l'ai vu à un moment dans sa gloire, avec les écrans allumés, les clichés tendus qui permettaient de voir les articulations, si importantes pour moi, et dictant des comptes rendus, ce qui s'appelle des comptes rendus médicaux, à trois secrétaires. Et je le comparais, l'image qui me venait, c'était le dieu Shiva avec 6 ou 7 bras. Et moi, dans ma vie, les moments où je suis heureux, c'est quand je me sens comme ça, c'est-à-dire suractif, avec 6 bras, avec des dames qui travaillent avec moi. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec Lacan quotidien, c'est beaucoup, beaucoup de dames. Et... que les écrans sont là, que c'est très, il y a une intensité, et je sais que le moment où je coïncide avec cette image, pourtant cette image, je sais d'où elle vient, elle est ridicule en partie, c'est le petit garçon de 7 ans qui a vu son papa comme ça, radieux, le radiologue radieux, un peu comme le dieu Ra des Égyptiens, n'est-ce pas? Et je lisais les contes et légendes de l'Égypte ancienne. Donc je connais comment c'est fabriqué ce semblant, c'est un truc invraisemblable, c'est kitsch. Mais n'empêche, qu'est-ce que vous voulez, c'est quand je coïncide avec ça que je suis heureux. Et c'est le cas actuellement.
C'était À Voix Nue. Martin Kénéen s'entretenait avec Jacques-Alain Miller.